pause et puis on se dit à donc un jour. Allez, salut. Et on se quitte avec les Gojos. Me.
auditeurs du troisième âge, c'est la dernière fois que vous entendez un accordéon pousser la chansonnette sur cette fréquence.
Principe Actif, le mix des cultures. Dans le sud de l'Eure, 95.9. À Évreux, 102.4.
Voilà, je crois que vous n'êtes pas encore prêts pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça.
Bonjour, 16h en temps universel, bonsoir, 18h à Paris, 19h à Moscou.
Nicolas Brousse.
La Russie commémorait la fin de la Seconde Guerre mondiale ce 9 mai, mais ce n'était pas comme d'habitude. Cérémonie réduite, sans observateurs indépendants, avec peu d'invités internationaux, mais avec l'ombre de la guerre en Ukraine qui n'a cessé de planer sur la place rouge. Alors que le cessez-le-feu au sud Liban est violé quotidiennement, la commissaire européenne à la gestion des crises réclame un meilleur accès humanitaire pour l'aide qui est prête, dit-elle, mais qu'il est difficile d'acheminer. Elle était en visite à Beyrouth aujourd'hui. Et puis un robot entre dans les ordres. Cela se passe dans un temple bouddhiste sud-coréen qui accueille donc un premier robot moine et il pourrait se multiplier face à la crise humaine des vocations. Si beaucoup de pays européens, notamment célébrés hier 8 mai, la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la capitulation de l'Allemagne nazie, en Russie, c'est le 9 mai pour cause de décalage horaire, cette capitulation ayant été signée le 8 mai 1945, à 23h01 de Berlin, nous étions déjà le 9 mai à Moscou. D'habitude, ces commémorations sont l'occasion d'une démonstration de force avec un important défilé militaire, mais cette année, le Kremlin l'a plutôt joué modeste. 45 minutes de cérémonie, sans gros équipements comme chars et lance-missiles. À Moscou, notre envoyé spécial permanent, Anissa El-Jabri, a suivi ces commémorations qui se sont déroulées en présence de peu de dirigeants étrangers et sous le signe d'une trêve avec l'Ukraine annoncée in extremis hier et qui, Anissa, ne devrait pas jouer les prolongations.
Robert Fico, le premier ministre slovaque, a bien comme prévu rencontré Vladimir Poutine, mais le Kremlin affirme qu'il n'avait pas de message de Volodymyr Zelensky à transmettre quant à la prolongation de la trêve. Dimitri Peskov avait prévenu avant le rendez-vous via une déclaration à l'agence d'État TASS. Ce sujet n'a pas encore été discuté. Manière polie de doucher ceux qui auraient pu avoir un début d'espoir. Le 9 mai reste de toute façon en Russie le jour dédié aux démonstrations de force, évidemment bien plus sobre cette année. La semaine s'est déroulée sous forte tension avec des restrictions sur la moitié du territoire allant de l'interdiction de défiler aux coupures d'internet. Pas de tanks ni de missiles au défilé dans la capitale russe. Cette première depuis près de 20 ans s'est déroulée sur une place rouge transformée en forteresse avec snipers dans les tours du Kremlin. Vladimir Poutine y était assis. C'était une première non pas à côté de vétérans de la Seconde Guerre mondiale mais d'ex-participants à la guerre en Ukraine, ceux qui s'y battent toujours, a jugé le chef de l'État russe. Je font face à une force agressive armée et soutenue par l'ensemble de l'OTAN. Seuls les dirigeants de quatre pays reconnus par l'ONU se sont déplacés dans la capitale russe ce 9 mai. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Moscou qui a perdu l'un de ses principaux alliés au sein de l'Union européenne puisque Péter Madiar est officiellement le premier ministre de la Hongrie. Il a prêté serment suite à la victoire de son camp aux législatives du 12 avril. Victoire largement acquise après des promesses de changement suite aux 16 années de règne de Viktor Orban, proche de Vladimir Poutine. Le nouveau dirigeant a d'ailleurs immédiatement assuré que lui ne régnerait pas mais servirait son pays et dénonçant la corruption généralisée au sein de la galaxie Orban. Il annonce la création d'un office indépendant chargé de mettre au jour tous les abus et de récupérer les sommes détournées. Le chef de la diplomatie iranienne a fait part de ses doutes aujourd'hui à son homologue turc sur la motivation et le sérieux de la partie américaine pour avancer sur la voie diplomatique. Peut-être un indice sur la réponse que va faire l'Iran à la dernière proposition de Washington. En attendant, Téhéran dément le scénario d'une marée noire dans le Golfe. Réaction après des informations du New York Times. Nicolas Feldman, le journal américain, généralement bien informé, révélait la présence en mer d'une nappe de pétrole au large de l'île de Karg, le principal terminal pétrolier iranien.
L'info commence par des images satellites diffusées mercredi. On y voit en pleine mer une tache grisâtre qui s'étend sur plus de 50 km carrés. D'après un organisme spécialisé dans la surveillance, plus de 3000 barils de pétrole auraient été rejetés dans les eaux du Golfe. Plusieurs pistes pourraient expliquer ce qui ressemble à une marée noire. Il y a d'abord ces frappes américaines et israéliennes des dernières semaines. Elles auraient pu endommager des installations iraniennes de pétrole et entraîner ainsi une fuite. Mais il y a aussi le blocus naval imposé par Washington sur le détroit d'Ormuz. Avec ce blocus, les pétroliers iraniens ne peuvent plus partir, les capacités de stockage sont saturées et les infrastructures iraniennes déjà vétustes pourraient avoir cédé. Enfin, autre option, une source évoque une possible fuite à bord d'un vieux navire iranien utilisé pour stocker du pétrole en mer. Téhéran dément le scénario d'une marée noire. Les taches observées seraient dues, selon un député iranien, au rejet en mer d'un pétrolier européen. Une ONG de défense de l'environnement qui se base, elle, sur des images satellites plus récentes évoque de son côté une nappe qui s'est fortement réduite depuis les premiers clichés pris mercredi.
Dossier suivi par Nicolas Fellman. Si un calme relatif règne autour du détroit d'Ormuz, au Liban, les affrontements Israël-Hezbollah restent quotidiens malgré le cessez-le-feu depuis le 17 avril. Ainsi, le ministère libanais de la Santé vient d'annoncer qu'une frappe israélienne hier sur le sud Liban avait causé la mort d'au moins 7 personnes, dont une enfant, et fait également une quinzaine de blessés. Le Hezbollah ce soir assure en réponse avoir visé avec un drone le nord d'Israël, visé principalement un rassemblement de soldats. Ce conflit, outre ses victimes directes, provoque une catastrophe humanitaire, comme a pu le constater Adja Labib, commissaire européenne à la préparation et la gestion des crises. Elle est en visite en ce moment au Liban. Plus d'1,2 million déplacés, soit un cinquième de la population, est actuellement à soigner. Notre correspondante au Liban, Sophie Guignon, a pu rencontrer la commissaire européenne de passage à Beyrouth et elle réclame pour ses déplacés un meilleur accès humanitaire.
Depuis le début de la guerre, l'Union européenne a débloqué 100 millions d'euros d'aide au Liban.
L'aide humanitaire, c'est une réponse d'urgence. Il faut une paix, il faut une solution durable. Il faut tout d'abord un cessez-le-feu, qui soit un vrai cessez-le-feu. Il faut que le Hezbollah soit désarmé.
Un désarmement impossible sous le feu et sans aide aux forces armées libanaises.
Je crois qu'on est tous d'accord. Il y a un consensus clair qui se dégage au sein du Conseil de l'Union européenne pour dire qu'il faut renforcer notre aide au Liban.
Mais pour faire pression sur Israël et suspendre l'accord d'association avec l'État hébreu, l'Union européenne reste divisée.
L'Europe ne parle pas encore d'une même voix, mais il y a une évolution, parce que ça ne peut plus durer, parce qu'on ne peut plus continuer à voir les violations permanentes du droit international, voir les écoles, les hôpitaux, les maisons être ciblées, voir des villages entiers être rasés dans le sud. On a proposé une levée partielle de l'accord d'association Union européenne-Israël, mais nous ne l'avons jamais obtenu. Il faut un consensus des États membres.
Soit une majorité qualifiée de 15 États représentant 65% de la population de l'Union européenne. Sophie Guignon, Beyrouth, RFI.
Le président français, lui, entame une tournée africaine par l'Égypte où, outre des entretiens avec son homologue, il inaugure une université de la francophonie à Alexandrie. Puis il est attendu au Kenya pour inaugurer lundi un sommet France-Afrique pour la première fois dans un pays anglophone. Radio France Internationale y sera également. En Corée du Sud, un moine bouddhiste d'un nouveau genre vient d'entrer en service et dans les ordres, un robot bipède. C'est le premier à entrer ainsi dans les ordres. Une expérimentation d'un temple bouddhiste à Séoul qui permet aux religieux de réfléchir à la place à venir de la technologie au sein de leur religion. Sur place, notre correspondant Celio Fioretti.
Une cérémonie d'ordination d'un nouveau genre. Le robot Gabi est officiellement devenu moine au temple de Jogye à Séoul.
Robot moine, joignez vos mains et dites « Je me dévoue ».
Je me dévoue.
Une première expérimentation pour l'ordre bouddhiste qui ne fut pas si facile, explique le moine Vénérable Sungwon.
Pour l'instant, il ne fait que suivre des mouvements programmés. Et quand nous avons essayé nous-mêmes, nous nous sommes rendus compte que les mouvements mouvements du robot étaient extrêmement limités. Nous voulions lui faire faire le geste des paumes jointes et les prosternations bouddhiques, mais ça ne marchait pas.
Et pensez-vous qu'il pourrait avoir sa place dans des temples où il n'y a plus de moines ?
Et cela pourrait arriver, oui. Les robots vont continuer à évoluer, mais je pense que cela reste encore très lointain. Bien sûr, il faut réfléchir à cette possibilité. Donc, de la même manière que les humanoïdes entreront progressivement dans les foyers, ils pourraient aussi entrer peu à peu dans les temples.
À défaut d'être pleinement intégré à la vie monastique, Gabi participera principalement aux grandes cérémonies religieuses. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Qu'ajouter après ça ? Pas grand-chose, si ce n'est qu'il n'y a pas encore de robots journalistes, en tout cas pas sur Radio France Internationale. Dans quelques secondes, toute l'équipe de Mondial Sport. Je vous retrouve, quant à moi, en chair et en os, juste après pour une prochaine édition. Merci d'écouter RFI. Il est quasiment 16h10 en temps universel.
Ce dimanche sur RFI.
Cette radio associative s'est rendue indispensable.
C'est vraiment la radio moderne qui apporte quelque chose.
C'est une radio libre.
Une radio libre.
À Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principactif.net.
Papa, je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça.
to love ourselves fully. Infinite possibilities. We are not disconnected reflections of a source, of a life source.
Changer qui aurait pu s'imaginer se laisser aller, oh yeah, ça papaya. qu'est-ce que je voudrais? C'est filer à l'anglaise vers les destinations salées ou couler les charentaises. Que voulez-vous, hein? Que voulez-vous? Tout ça vaut pas en pèse. Un petit coin bon, un verre, une chaise longue, qu'on se mette à l'aise. Que voulez-vous,
Le monde, Chico. Et tout ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dedans.
Les yeux fermés, les poings serrés, concentration. Taper dans le sac, corde à sauter, consécration. Encaisser, fatiguer, se relever. Confrontation, ne pas abandonner. Persévérer, obstination, nation qui pleure. Abnégation des larmes et des valeurs. Odeur de peur d'avoir perdu sa fierté, son honneur. Mais quel malheur. Mais moi, ce que je voudrais, c'est filer à l'anglaise vers les destinations salées, couler les charentaises. Que voulez-vous, Que voulez-vous? Tout ça vaut pas en plaise. Un petit coin bon, un verre, une chaise longue, qu'on se mette à l'aise. Que voulez-vous,
Yeah, one, two, yeah, you're my man. Hip hop is massive. I got a gold flow that burns like acid. Let me spit on you with a microphone, cause I got what it takes to break your neck bone. I'm just a rhymes away to reach a damn throne. 8 bars are enough to explode and say song. So what would you like to? Whatever. After all, I'm living in my dreams, I'm gonna stay forever.
Et moi, ce que je voudrais, c'est filer à l'anglaise vers les destinations salées. Vous voulez les charentaises, que voulez-vous, Que voulez-vous? Tout ça vaut pas en plaise. Un petit coin bon, un verre, une chaise, mais qu'on se mette à l'aise. Que voulez-vous,
Le monde, Chico, ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dedans.
Petit soldat s'endort et jamais se réveille. Comme un jour sans aurore au pays des merveilles. Pourtant si jeune, et une fois sans pareil, il s'est éteint sur l'or, noir du soleil. Alors